Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les actions de plaidoyer de Wikimedia France, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également en programme l'épineuse question des salariés, créateurs et créatrices de logiciels. Et en fin d'émission, Luc s'interrogera « Être enregistré rend-il compte ?» Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser toutes questions. Nous sommes le 26 octobre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Avani. Salut Isa.
Bonjour.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, que j'ai plaisir à retrouver au studio. Donc Noémie, tu es avocate au cabinet d'Une et tu nous proposes aujourd'hui une chronique intitulée Code du travail et code de la propriété intellectuelle, on décode les règles. Bonjour Noémie, je te laisse la parole.
Bonjour Étienne, bonjour à toutes, bonjour à tous. La chronique de ce jour porte sur les créations logicielles des salariés. C'est un vaste sujet, puisqu'effectivement, le salariat est lui aussi directement concerné par la création. Et on va s'intéresser ici plus spécifiquement aux logiciels. Donc les logiciels sont des œuvres de l'esprit, ils sont définis comme tels dans le code de la propriété intellectuelle, et on va voir au travers de cette chronique que il faut donc considérer le salarié comme soumis au code du travail, mais aussi, on va le voir, il se voit appliquer un certain nombre de règles du code de la propriété intellectuelle, et on va essayer ici d'en décoder les règles. Je rappellerai que le salarié, lorsqu'il est créateur, il est lui-même auteur et à ce titre, conformément au code de la propriété intellectuelle, il va donc avoir des droits qu'on appelle patrimoniaux et des droits qu'on appelle moraux. Les droits patrimoniaux vont être des droits d'exploitation et les droits moraux sont des droits qui sont vraiment attachés à sa personne. Et donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que le code de la propriété intellectuelle prévoit que chaque auteur qui détient ses droits est en principe libre évidemment de les exploiter. Or, ce qu'il faut retenir pour le salariat, c'est qu'il y a une règle qui est assez dérogatoire de ce qu'on connaît dans le code de la propriété intellectuelle, qui est prévue à l'article L113-9 et qui prévoit que pour les salariés auteurs de logiciels, les droits patrimoniaux sont dévolus directement à l'employeur. On a un article qui nous dit que donc, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, c'est important de le préciser, qui sont créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur, sont dévolus à leur employeur qui est seul habilité à les exercer. Donc ce qui signifie que l'auteur salarié d'un logiciel et de la documentation qui est associée, soumis au code de la propriété intellectuelle, voit ses droits patrimoniaux dévolus directement à l'employeur. Les droits moraux sont, eux, en revanche, conservé par l'auteur salarié, là-dessus il n'y a pas de spécificité, si ce n'est qu'il faut quand même savoir que si l'auteur salarié va exercer ses droits moraux, il ne peut pas abuser de ses droits et ne pourrait pas par exemple essayer de contourner l'exercice des droits patrimoniaux par l'employeur en utilisant ses droits moraux. On a quelques cas dans la jurisprudence où on s'est rendu compte que ce n'était pas... que les juridictions n'autorisaient pas en fait l'utilisation des droits moraux pour contourner l'interdiction d'utiliser les droits patrimoniaux. En d'autres termes, il faut aussi retenir que s'agissant des salariés, évidemment, ce sont ceux qui sont liés à un contrat de travail avec leur employeur. Alors souvent se pose la question en pratique des stagiaires, parce que c'est vrai que dans la majorité des entreprises, on a aussi des stagiaires. Ce qu'on aperçoit dans la pratique, c'est que les stagiaires sont quant à eux unis, liés avec une société, une entreprise, avec une convention de stage, par une convention de stage. Et dans cette convention de stage, on peut retrouver certaines clauses qui viennent préciser des conditions conditions de cession de droit, parce que là, en fait, comme on sort du régime lié aux salariés, eh bien, on doit retrouver une clause de cession de droit qui est le principe de, dans le code de la propriété intellectuelle, c'est que tout auteur qui veut faire exploiter ses droits par l'intermédiaire d'un tiers doit les faire céder. Et c'est ce qu'on retrouve dans les conventions de stage. Alors, c'est vrai que parfois, on est vraiment confronté à une difficulté d'interprétation de ces clauses qui sont pas toujours très, enfin en tout cas qui sont pas forcément très adaptées à l'activité de la société dans laquelle le stagiaire intervient, et donc ça nous amène à souvent nous interroger sur les conditions de la validité d'une telle clause. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour les salariés la règle est assez différente, c'est parce que à l'époque, avant 1985 et avant l'intégration de cet article L113-9, il fallait prévoir une clause de cession de droit quand on était salarié, qu'on travaillait dans une entreprise et qu'on créait des logiciels. Donc ça impliquait évidemment d'avoir des clauses de cession de droit très, très précises. Ici, on peut se poser la question, est-ce que le fait que le code de la propriété intellectuelle prévoit une cession automatique, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'en tant qu'employeur, on peut se passer finalement dans le contrat de travail de prévoir une clause de cession de droit également? Ce qu'on voit dans les faits, c'est que les employeurs intègrent toujours de manière systématique une clause aussi de cession de droit sur les logiciels qui sont créés par leurs salariés, parce que ça permet de clarifier d'une part l'intervention du salarié, puisque pour que la cession automatique s'applique, il faut que ce soit dans le cadre du travail, c'est-à-dire que le salarié va créer les logiciels dans le cadre de son temps de travail, et aussi que ce soit dans le cadre de son activité normale. Exemple, on va prendre un comptable qui développe un logiciel. Son activité en tant que comptable, c'est évidemment de faire la comptabilité. En revanche, c'est vrai que s'il s'intéresse au développement et qu'il crée un logiciel, on peut se poser la question, est-ce que le fait de l'avoir créé sur son temps de travail, est-ce que c'est de nature à rendre immédiatement la cession automatique des droits auprès de l'employeur, ou est-ce qu'on va considérer qu'il est lui-même titulaire de ses droits patrimoniaux? C'était posé d'ailleurs une question qui était, est-ce que le salarié qui utilise les moyens qui sont mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail pour créer des logiciels en dehors de son temps de travail, est-ce que ça va du coup s'intégrer dans la cession automatique? Et bien là aussi, a priori, la jurisprudence a tranché, et le fait d'utiliser les moyens qui sont mis à disposition par l'employeur, dans certains cas, ça a été jugé comme étant remplissant la condition de l'article L113-9, et donc il y avait une cession automatique auprès de l'employeur. Donc c'est vrai que ces sujets aujourd'hui ils sont quand même assez courant. On retrouve aussi une question par rapport à la rémunération, parce que c'est vrai qu'en tant que salarié, dans le contrat de travail, si on a une clause de cession de droit, ou en tout cas une clause qui finalement rappelle les dispositions de l'article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle, on va aussi se poser la question de savoir si les créations sont rémunérées par le biais de la rémunération que perçoit habituellement le salarié, ou est-ce que c'est une rémunération proportionnelle. Alors c'est vrai que dans le Code de la propriété intellectuelle, on a vraiment pour les logiciels une exception au principe de la proportionnalité pour la rémunération, et on peut donc verser une rémunération forfaitaire. La clause justement dans le contrat de travail va venir un petit peu préciser le contexte de la création et de la rémunération qui est faite au salarié. C'est quand même intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait il y a quand même des points qui sont négociables entre le salarié et l'employeur. Et se pose aussi alors la question des logiciels libres, puisque en tant que salarié auteur, eh bien il peut être amené à contribuer au développement de logiciels libres, voire même à utiliser des logiciels libres. Et donc là, on voit dans la pratique, dans les sociétés où on va promouvoir les licences libres, les logiciels libres, que sont signés entre le salarié et l'employeur ce qu'on appelle des contributor agreements, qui permettent un petit peu de clarifier les conditions de travail du salarié et comment il va participer aussi aux différents développements. Se pose aussi la question de savoir qui va pouvoir choisir la licence libre. Et c'est vrai que là, dans la majorité des cas, on voit quand même que c'est l'employeur qui va choisir les modes de distribution. Ce qui est intéressant, c'est que pour les logiciels libres, il y a vraiment la possibilité d'avoir un débat et une discussion pour déterminer d'un commun accord ce qui est finalement la licence qui serait la plus adaptée. Donc là encore, sur ce type de secteur, on est vraiment sur de la négociation contractuelle. Alors, il peut arriver de temps en temps qu'il y ait des différends, évidemment, des différends qui portent sur des contestations par rapport justement à ces droits qui sont ceux du salarié, qui sont dévolus à l'employeur. Et là, Ce qui est intéressant de noter, c'est que, et c'est un peu une vraie dérogation au code du travail, c'est qu'en principe, évidemment, toute difficulté qui intervient dans le cadre du contrat de travail est soumise au conseil de prud'homme, si ce n'est qu'ici, en fait, comme on est sur de la propriété intellectuelle, le code de la propriété intellectuelle a prévu une dérogation, et il prévoit que toutes contestations qui sont fixées, qui sont en lien avec l'article L113-9, seront portées devant le tribunal judiciaire du siège social de l'employeur, et donc ce seront des juges qui sont formés à la propriété intellectuelle qui seront amenés à trancher ces questions, ce qui est quand même assez adapté parce que c'est quand même des sujets qui sont très spécifiques, et souvent ces juges-là vont être amenés à la fois à interpréter les articles du code de la propriété intellectuelle, mais également à interpréter aussi des clauses qu'on peut retrouver dans les contrats de travail, voire même parfois des conventions collectives, et donc c'est vrai que c'est quand même important d'avoir une bonne connaissance du secteur. Et donc voilà pour ces sujets qui sont quand même assez, assez courants dans notre activité au quotidien, puisque c'est vrai qu'on est soit amené à travailler et donc à avoir un contrat de travail, et c'est important de connaître un petit peu les droits dont on dispose et qui sont prévus par le législateur. Voilà, j'en aurais terminé de cette chronique et j'étais ravie de vous retrouver.
Bah pareil, merci beaucoup Noémie. Et effectivement, je pense que ta chronique sera disponible en podcast d'ici quelques jours, et je pense qu'elle pourrait être utile effectivement pour pas mal de salariés qui se posent leur question de quels sont leurs droits. Et intéressant d'ailleurs qu'effectivement le logiciel libre apporte un niveau de réflexion différent, et peut-être que le rapport de subordination se joue différemment justement puisque c'est du logiciel libre, les droits patrimoniaux appartiennent à personne et à tout le monde en même temps, quelque part.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une vraie discussion. En tout cas, ça crée la discussion, et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est un vrai parallèle avec la propriété intellectuelle.
Super. Bah, merci beaucoup. Je te dis au mois suivant.
Avec plaisir.
Ça marche. Merci beaucoup, Noémie. Nous allons passer à faire une pause musicale. Nous allons écouter Sacrifice par Ellie Lortomy. On se retrouve dans 3 minutes 30. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Sacrifice par Ellie Lortomy, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution 4.0. Alors ce morceau fait partie des découvertes de nos amis d'auboutdufil.com qui ont interviewé l'artiste. On apprend ainsi que son nom de scène, le nom de scène pardon, de cet artiste de 27 ans est un anagramme de son nom complet, Elliot Romy. Il nous explique pourquoi il a choisi l'autoproduction et aussi qu'il diffuse certaines de ses musiques sous licence libre notamment pour, je cite, « permettre à des artistes amateurs de pouvoir créer un projet commercial ou non commercial sans avoir à débourser quoi que ce soit ». Voilà, vous pouvez retrouver l'interview complète de l'artiste sur le site auboutdufil.com.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous allons maintenant passer à notre sujet suivant. Alors pour notre sujet principal, j'ai le plaisir de recevoir avec moi en studio Nafsika Papanikolaou et Pierre-Yves Baudouin, respectivement chargé de plaidoyer et président de Wikimedia France. Alors vous connaissez certainement l'encyclopédie en ligne libre et gratuite Wikipédia, mais peut-être ne connaissez-vous pas la Wikimedia Foundation et ses différents chapitres nationaux, dont celui de la France, et que Wikimedia France mène des actions de plaidoyer politique, comme l'April peut le faire justement sur le sujet du logiciel libre. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à participer à notre conversation en nous appelant au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors Nafsika, Pierre-Yves, bonjour. Je vais vous poser une question très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, Nafsika ?
Étienne, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Déjà. Alors, me présenter en quelques mots, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Nafsika, j'ai 27 ans. Je me suis fait embaucher chez Wikimedia France il y a maintenant une petite année en tant que chargée du plaidoyer. Donc, ce qu'on appelle chargée du plaidoyer, c'est je vais défendre et porter les intérêts des projets Wikimedia. Donc, aujourd'hui, on va parler de Wikipédia, c'est le plus connu. Mais je vais porter en tout cas nos valeurs et défendre nos intérêts auprès des institutions politiques, qu'elle soit française ou européenne, pour essayer de faire en sorte que notre modèle soit pérenne dans le temps et le protéger du mieux que je peux.
Pierre-Yves ?
Merci Étienne. Je suis l'actuel président de Wikimedia France, donc du côté des bénévoles, et je baigne dans Wikipédia, dans le mouvement Wikimedia depuis très longtemps, depuis 2004. J'ai commencé à contribuer à cette époque-là, et ces dernières années, j'ai souhaité développer les relations institutionnelles, les relations publiques avec les pouvoirs publics, notamment pour pas laisser les fameux Big Tech ou GAFAM monopoliser la parole durant ces réunions, et je souhaite que d'autres acteurs comme Quant ou Wikipédia soient représentés.
Parfait. Alors nous avons fait une émission et justement Pierre-Yves, tu y avais participé hein, sur Wikipédia, sur la Wikimedia Foundation, alors en avril 2019. Donc bien sûr on va reparler un petit peu de Wikimedia, de Wikipédia, de comment vous fonctionnez. Mais si les personnes qui nous écoutent souhaitent creuser encore davantage le sujet, voilà, vous pourrez retrouver bien sûr le podcast sur le site april.org. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots voilà, ce qu'est la Wikimedia Foundation, ce qu'est Wikimedia France au sein de cette structure internationale? Comment s'inscrit à Wikipédia dans tout ça, voilà, comment ça fonctionne?
Oui, je vais m'en charger. Donc tout d'abord, un point sur Wikipédia, le site que vous connaissez tous. Contrairement aux autres grands sites web, grandes plateformes, comme on dit chez les pouvoirs publics, les gens qui rédigent le contenu sont en charge de quasiment tout. Ils assurent aussi la modération, ils décident de la page d'accueil, ils décident des règles, ils décident de bannir ou d'accepter les rédacteurs, ils élaborent les règles, voilà. Donc ils sont à peu près, c'est une communauté autogérée qui est en charge de tout, avec les limites, ils n'ont pas de président, ils n'ont pas de porte-parole, ils n'ont pas de personnes qui répondent à la presse. Donc derrière, il y a évidemment un hébergeur, comme tous les autres sites, mais qui n'a beaucoup moins de rôle que quand on est sur Facebook ou Twitter ou compagnie. Donc l'hébergeur, qui est la Wikimedia Foundation, assure l'achat de serveurs, la location de la bande passante, le développement du logiciel. C'est un logiciel libre qui fait fonctionner Wikipédia et qui peut être utilisé sur tout un tas de sites. Et en dernier acteur, il y a un réseau d'acteurs associatifs dont fait partie Wikimedia France. Pour le dire simplement, souvent je fais le parallèle avec la Société des Amis du Louvre, du Musée du Louvre, qui vient en aide au Louvre mais qui ne gère pas le Louvre. Ils achètent des œuvres d'art pour le musée. Ce sont des passionnés. Donc nous, c'est pareil. Nous sommes des passionnés, des experts de Wikipédia en France. Donc c'est pour ça qu'on fait un peu du plaidoyer de relations institutionnelles, mais finalement on n'a aucune légitimité, on n'est pas le porte-parole de la communauté et on n'est pas le porte-parole de l'hébergeur.
D'accord. Tu souhaites apporter des précisions, Sika ?
Non, je crois que tout a été dit. On sait que c'est une gouvernance très compliquée. En tout cas, c'est un organigramme pas facile à comprendre. Mais non, Pierre-Yves a tout dit. Il y a ces trois acteurs distincts, mais qui se rejoignent quand même pas mal. Donc nous, on est là ni pour parler à la place des Wikipédiens français, ni pour parler, enfin francophones, ni pour parler à la place de la Fondation. Mais en tout cas, on est un espèce d'intermédiaire où on connaît plutôt bien le système, les communautés, la Fondation, et de l'autre côté, on connaît aussi bien les pouvoirs publics français, les pouvoirs publics européens, donc on sait à qui s'adresser au moment où il faut s'adresser. Donc on essaye d'être un peu cet intermédiaire dans cette gouvernance pas très facile.
D'accord. J'ai l'impression que ce qui est important, d'une part, c'est peut-être que ce système donne aussi une indépendance, le fait que ce soit une fondation but non lucratif, j'imagine bien, qui porte, qui peut financer, qui héberge, etc. C'est une garantie d'indépendance pour un outil qui est extrêmement important. Le fait que, et cette indépendance, le fait que vous ne parliez pas pour l'Wikipédien, mais c'est un Wikipédien et Wikipédia me paraît important. Parce que de mémoire, sûr, et on va peut-être en parler rapidement, enfin, Wikimedia et avec Pierry, voilà, nous étions rencontrés lors de nos actions respectives sur la directive, lors de des débats sur la directive droit d'auteur. Il y avait eu, je me rappelle, tout un débat sur le fait, faut-il mettre un bandeau, par exemple, sur Wikipédia, et on sait qu'il y a toujours cette frilosité, mais que je pense saine à participer au débat public ou du moins dans les prises de décision politiques. Et c'est peut-être là aussi du coup où ce que je comprends du rôle de Wikipédia France, c'est d'être peut-être un facilitateur de ce lien avec une distance raisonnable.
Oui, c'est ça, tout à fait. Enfin, Pierre-Yves, je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, en tout cas, le travail de plaidoyer que je fais, je le ressens un peu comme ça. Je n'ai aucune prétention à dire que je parle pour la Wikipédia en français, ni pour la Fondation, mais pour autant, on essaye de faire en sorte que dans cette gouvernance, tout file le mieux possible, en tout cas.
D'accord.
Et en sens inverse, c'est vrai qu'on sert d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et la communauté, voire la Fondation qui est l'hébergeur. Les pouvoirs publics, quand ils ont des choses à dire aussi aux modérateurs bénévoles, voilà, nous, on peut relayer leur message. Donc on veut vraiment ne pas faire la politique de la chaise vide. C'est pas parce que la Fondation a encore peu de moyens, notamment humains, et n'est pas représentée en France, qu'on ne souhaite pas faire partie de ces réunions stratégiques des pouvoirs publics français ou de Bruxelles.
Alors du coup, j'ai deux questions qui viennent. Alors déjà, peut-être en France, mais en général, on sent bien qu'effectivement, peut-être les pouvoirs publics vont avoir besoin d'une expertise, on va dire, sur ce qu'est Wikipédia, parce que Wikipédia est un objet extrêmement important, notamment pour les libertés publiques, et donc ils ont besoin aussi, je pense, de votre intermédiation. Ça part, alors du coup, toi, tu es arrivé à Nastika depuis un peu plus d'un an. Voilà, et avant, c'était bénévole, donc j'imagine du coup une volonté aussi de professionnaliser ce poste, et je pense que c'est pas un choix anodin. Voilà, si vous voulez revenir là-dessus. Et puis, vous parliez du niveau européen. Donc, est-ce que vous coordonnez avec d'autres chapitres, j'imagine, d'autres chapitres nationaux lors des projets européens? Comment ça s'organise, tout ça?
Alors, je vais peut-être laisser Pierre-Yves répondre sur le côté de professionnalisation du plaidoyer chez Wikimedia France. Pour ce qui est, pour ce qui m'intéresse, moi, et pour ce qui est des relations avec Bruxelles et, en règle générale, l'Europe, effectivement, Wikimedia France a des liens avec... Il y a une petite équipe de Wikimédiens à Bruxelles. Enfin, de Wikimédiens, il y a deux salariés à Bruxelles, donc qui gèrent et qui s'occupent et qui font beaucoup de veille sur tous les textes européens. Et croyez-moi, il y en a une flopée. Mais c'est pas tout. On a aussi pas mal de relations avec d'autres affiliés européens, comme la Wikimedia allemande, Wikimedia Allemagne. Il y a aussi Wikimedia Italie et Espagne. Donc on essaye de, au moins une fois par mois maintenant, de se coordonner, de s'appeler, de savoir ce qui se passe en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, à Bruxelles, pour justement coordonner au mieux nos actions, qu'elles soient nationales ou européennes, et ensuite pousser encore plus nos messages. Mais en tout cas, ce qui me concerne, j'ai un lien quasi quotidien avec ces deux personnes à Bruxelles, mes deux homologues à Bruxelles, qui m'aident beaucoup justement sur des sujets qu'on verra un peu plus tard au niveau européen, qui se répercutent beaucoup en France. Donc oui, on essaie de coordonner beaucoup d'actions au niveau européen.
Oui, on sait qu'au niveau européen, de l'importance, si on veut agir politiquement, c'est indispensable d'avoir un pied à Bruxelles, parce que ça va très vite et c'est très difficile à suivre à distance. Pierre-Yves ?
Donc effectivement, on a pris la décision l'an dernier, un peu après, en faisant le bilan de la directive droit d'auteur, sur un texte où on travaillait ensemble, Étienne, que le bénévolat atteignait ses limites. Les textes sont de plus en plus compliqués, de plus en plus pointus. Lors des réunions, il faut des fois parler de virgule près, notamment lors des sujets européens. C'est extrêmement chronophage et qu'il nous manquait tout simplement des compétences là-dessus, juridiques, comme on a pu voir la première présentation de Noémie. C'est hyper compliqué, hyper spécifique, cette thématique. Et donc les gens qui viennent de l'encyclopédie n'ont pas forcément ces qualités. Où, moi, par exemple, je n'ai pas ces compétences en termes de droit. Donc on a eu la chance de pouvoir ouvrir un poste sur ce sujet, et c'est aussi pouvoir représenter un peu le web qu'on défend, hein, parce qu'il y a encore peu d'acteurs, notamment en France, qui peuvent assister à ce genre de réunion. Souvent on est le seul représentant d'un site web à but non lucratif dans ce genre de réunion. Dernièrement on était chez Viginum, voilà, il y avait que les fameux tous les big tech, au secrétariat général de la défense et la sécurité nationale, et nous.
Viginum, c'était quoi ? C'était une rencontre sur la sécurité des sites web ?
Voilà, c'est ceux qui veulent lutter contre les ingérences étrangères, notamment afin de protéger les prochaines élections présidentielles françaises.
D'accord, je pense qu'on va revenir là-dessus. Alors, une question du salon pour toi, Afsika. Quelle est ta formation, se demande Marie-Odile ?
Ma formation, alors, j'ai commencé, je suis juriste, en fait. J'ai le statut de juriste, donc j'ai fait mes études de droit à la Sorbonne. J'avais commencé par une double licence droit Sciences Po. Et puis, j'ai fait un master de droit international. Étant un peu perdu, j'ai fait une année de césure, sans entrer dans les détails de césure professionnelle, mais il y a un stage qui m'a fait un peu changer d'avis, qui m'a fait comprendre que j'allais pas aller vers la magistrature ou l'avocature. C'est que j'ai fait un stage à la Commission européenne. Donc c'était un peu ma première approche des affaires publiques avec un grand A et un grand P. C'était quand même très général. Et aussi mon attachement à l'Europe s'est ressenti à ce moment-là. Donc je suis partie à Londres, où là j'ai fait un an un master 2 de diplomatie et de international relations, comme ils aiment le dire. Et comme je trouvais que c'était pas assez de faire 6 ans d'études, je me suis fait une 7e année à Dauphine. Et cette fois, c'était en affaires publiques. Pour le coup, c'était vraiment... en fait, je me sentais pas prête d'aller dans le milieu des affaires publiques comme ça. Et donc là, ce qui était chouette, c'est que c'était professionnalisant ou c'était en alternance. Donc j'avais fait une alternance en même temps dans un cabinet de conseil. Et me voilà chez Wikimedia, mais du coup j'ai fait un arrêt, on va dire, au Sénat pendant 6 mois en collaboratrice parlementaire avant. Et donc voilà, c'est mon background.
Merci beaucoup.
Universitaire.
Très intéressant. Et étant moi-même juriste et ayant moi-même fait une année de césure après ma première formation, je comprends très bien. Du coup, bon, on va pouvoir rentrer peut-être dans votre actualité et aussi, finalement, je pense, la raison pour laquelle il y a eu ce choix de se professionnaliser, c'est qu'effectivement, et notamment Wikipédia, parfois peut être impacté par des décisions qui sont prises au niveau politique. Et là, en plus, en ce moment, depuis plusieurs années même, hein, et puis la directive droit d'auteur qu'on a plusieurs fois mentionnée en était un exemple fort, on sent que les pouvoirs publics ont davantage de velléité de réguler ce qui se passe sur les réseaux et puis de plus contrôler les usages. Avec une tendance à la remise en cause d'un principe alors qui date pour le coup du début des années 2000 et qui consiste à faire la distinction entre les éditeurs de contenu, qui sont eux responsables par définition de ce qu'ils publient, et puis les hébergeurs qui eux sont responsables uniquement des contenus manifestement illicites qu'ils hébergent si on leur signale. Alors cette distinction, elle est importante car elle pose le principe qu'un hébergeur n'a pas à surveiller ce qui se passe dans ses tuyaux, il n'a pas à contrôler l'usage qui en est fait de manière systémique. Et c'est bien sûr une protection pour ces acteurs-là, mais aussi, et bien sûr même, j'ai envie de dire, pour les utilisateurs et utilisatrices de ces outils. Alors, ce n'est pas directement notre sujet, mais il y a eu beaucoup de débats sur la pertinence de cette dichotomie, et surtout avec l'essor d'acteurs hégémoniques, maîtres de leur silo technologique, hein, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, voilà, et consorts. Et donc des forces politiques, il y a des forces politiques en présence qui, alors ça peut être sous le prisme du droit d'auteur, de la lutte contre les propos haineux en ligne, de l'antiterrorisme, et ainsi de suite, qui veulent modifier le principe que j'évoquais. Et puis ça peut justement du coup impacter Wikipédia. Donc je pense que c'est important de reposer un petit peu, parce que je pense que c'est assez central quand on se penche sur la question de la régulation économique. Et puis, alors, des volontés de régulation, voilà, pas toujours avec le souci, malheureusement, des utilisateurs et de leurs utilisatrices et de leur liberté, je pense qu'on peut le dire. Donc Pierrine, Nassika, j'aimerais déjà avoir votre ressenti sur cette question, et puis plus particulièrement, puisqu'on évoque la question de Wikipédia, qui est un des sites les plus visités au monde, qui héberge énormément de contenu, hein, peut-être plus sous la plateforme Wikimedia, mais je pense qu'on peut difficilement dissocier ces deux plateformes. Voilà, est-ce que vous avez déjà... Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça, Pierrine?
Ma première chose... Déjà, peut-être pour rassurer les auditeurs, a priori, la dichotomie hébergeur-éditeur est maintenue, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, ils ont décidé de la contourner un peu en mettant de plus en plus d'obligations de moyens sur les hébergeurs. Sur le papier, en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il est vrai qu'au niveau de modération, peut-être que certains grands acteurs de Big Tech font pas assez d'efforts. Mais du coup, c'est là où il faut être vigilant et que ça n'impacte pas négativement tous les acteurs ou d'autres acteurs type Wikipédia. Ou alors, on reviendra dans le reste de l'émission sur des exemples plus concrets. Mais voilà un peu le fond du problème ces dernières années et les années à venir, je pense.
Alors, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Pierre-Yves. Peut-être aussi pour compléter ou pour bien faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices, parce qu'on parle beaucoup de modération sur les différentes plateformes, hein, que ce soit sur, enfin, au niveau des big tech ou même au niveau de Wikipédia. La modération sur Wikipédia, elle est un peu particulière. C'est ce que disait Pierre-Yves assez brièvement au début d'émission. C'est qu'en fait, Wikipédia, c'est une double modération, c'est presque une double modération. Ou en tout cas, le but, c'est qu'il y ait le moins de contenu qui soit signalé à la fondation. En fait, les communautés bénévoles, les modérateurs, ne vont pas du tout attendre le signalement d'un contenu haineux pour le modérer. Donc, c'est ça qui est très vertueux avec cette... en tout cas avec cette méthode et avec ce modèle-là, c'est que les bénévoles et les patrouilleurs qui sont sur la Wikipédia en français ou en anglais, enfin peu importe, modèrent tout de suite et n'attendent pas que la fondation va avoir un signalement pour voir si le contenu était illicite ou pas. Donc c'est aussi, et on en parlera peut-être quand on parlera plus vraiment régulation du numérique, c'est un modèle que les législateurs ont peu en fait en tête. Ils ont souvent le modèle des big tech. Alors, à juste titre, hein, enfin, à juste titre ou pas, mais c'est vrai que c'est des outils qui sont quotidiennement dans nos vies. Alors, Wikipédia aussi, mais Wikipédia, on connaît moins l'envers du décor de la modération. Mais donc, ils ont dans leur viseur les big tech, et du coup, ils oublient quand même les plateformes communautaires et bénévoles. Donc, ça peut être le risque dans ce genre de texte, que ce soit français ou européen, c'est de pas bien représenter ces plateformes-là. Et à terme, de potentiellement court-circuiter, enfin ça c'est le plus gros risque, mais de court-circuiter ces modèles vertueux qui marchent, pour l'instant.
Pour l'instant, mais alors ce qui est intéressant, et je trouve que c'est quelque chose que je ressentais déjà, bon, sur la directive d'un auteur, mais qu'on ressent à plein d'autres occasions, c'est vrai que malheureusement, on fait en fait, et à force de vouloir réguler de la manière dont ils appréhendent le problème, ils font de ces plateformes en fait la norme technique, alors qu'en fait c'est complètement un système qui, comment dire, une sorte de mutation, c'est des monstres, ça n'a pas lieu, ça ne devrait pas être comme ça, alors que Wikipédia est beaucoup plus proche en fait de l'idée originelle du fonctionnement des réseaux, d'Internet, dans une autogestion, on va dire, plutôt très rigoureuse, hein, par ailleurs. On sait que les communautés wikipédiennes sont extrêmement... enfin, les protecteurs, d'ailleurs, de leur outil et de ce qu'est Wikipédia. Et du coup, on en revient à normaliser des choses qui devraient, au contraire, être dénormalisées et au détriment, peut-être, de systèmes plus vertueux. Donc, il y a, effectivement, des volontés au niveau, alors, déjà européen et français, on peut le prendre dans l'ordre que vous le souhaitez, de réguler. On voit qu'en ce moment, donc, au niveau européen, il y a le Digital Services Act et le Digital Market Act. Donc là, plutôt sur Digital Services Act, je pense, qui impacte Wikipédia. Puis en France, alors il y a eu toute une flopée, effectivement, de lois diverses et éparses, et notamment dans les plus récentes, la loi Principe Républicain, qui elle aussi va porter des impacts. Alors elle est peut-être plus spécifique, hein, sur un type, on va dire, enfin une approche plus spécifique, alors que le Digital Services Act se veut plus global, en fait, hein, par laquelle vous souhaiteriez commencer?
Alors je me lance. En fait, les deux vont ensemble. Dans le sens où le Digital Services Act, que je vais appeler DSA, pour gagner un peu du temps avec tous ces noms à rallonge, c'est donc un projet de règlement européen qui est en fait a pour objectif d'être un nouveau cadre de réglementation, notamment donc quant au contenu haineux, exactement ce que tu disais, Étienne. Parce que en fait, le texte qui régule aujourd'hui en Europe les acteurs du numérique, c'est une directive qui s'appelle la directive e-commerce qui date de 2000. Donc, si vous voulez, en 2000, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait même pas Wikipédia, qui est né en 2001. Donc, tous ces acteurs sont en fait régulés par un texte qui est apparu alors même qu'il n'existait pas. Donc, nous, on n'arrête pas de saluer. C'est une très bonne chose que de moderniser cette directive. Donc ça, c'est au niveau européen, donc c'est le DSA. Au niveau français, donc ce que tu disais, c'est qu'on a eu une loi qui a été votée, hein, d'ailleurs ça y est, elle va être promulguée dans quelques temps, qui s'appelle Principe républicain. En fait, Principe républicain, c'est une pré-transposition du DSA. Donc le DSA étant un texte européen, les débats vont être très longs, ça fait déjà 2 ans que ça a commencé. Il faut mettre d'accord 27 pays. Hein. Donc il faut représenter faut essayer de se représenter la chose. Ça va pas être mis en vigueur demain, ça va pas rentrer en vigueur demain. Donc en fait, la France a décidé, bon, a été beaucoup critiquée, hein, que ce soit par nous ou d'ailleurs par d'autres États européens, d'avoir fait cavalier seul avec cette logique de surtransposer ou de pré-transposer ce texte. Il ne voulait pas attendre, en fait, n'a pas voulu attendre les débats à l'échelle européenne. Donc, en février dernier, si je vous dis pas de bêtises, les débats sur principes républicains, mais certains l'appellent le French DSA, donc le DSA à la française, ont commencé. Donc nous, nos critiques sur ces deux textes sont globalement les mêmes, même si on a plus critiqué le projet de loi français. On fait, en gros, trois grandes critiques. La première critique, et j'en parlais tout à l'heure, c'est le manque de représentation des plateformes communautaires. Donc c'est ce que je disais, les législateurs, parce que le législateur européen, c'est globalement la même chose, va rédiger sa loi en ayant un seul modèle en tête, un modèle purement réseau social, à but lucratif, publicité ciblée, etc., etc. Je vous passe le modèle qu'on connaît très bien. Donc ça, c'est notre première grande critique. C'est toujours de marteler ce message que le web, c'est quand même quelque chose qui est... où il y a un tas d'acteurs diversifiés. Alors oui, il y a 4-5 mastodontes qui sont en train de tout dévorer, mais pour autant, il y a d'autres modèles et il ne faut pas les oublier. Donc ça, c'est notre premier gros red flag, signal d'alarme qu'on essaye toujours de dire aux parlementaires, aux politiques, à toutes les institutions qu'on voit. La deuxième grande critique qu'on a, sans rentrer dans l'aspect vraiment techo, c'est un peu barbant, c'est que comment on sait si une plateforme rentre ou pas dans le scope de la loi ? En fait, le législateur a mis en place, moi j'y suis pour rien malheureusement, mais le législateur a mis en place, avec l'aide des politiques, des seuils de visiteurs uniques par mois. Donc en fait, on va prendre la loi principe républicain et on va se dire d'accord, c'est pour les plateformes qui sont définies dans le code du commerce, mais lesquelles ? Donc ils ont dit ça va être les plateformes qui ont 10 millions de visiteurs uniques par mois, au moins. Parce qu'il y a les petites plateformes, 10 millions, et les grandes, 15 millions. Dans le DSA, c'est pareil, sauf que vous vous rendez bien compte que les seuils vont être beaucoup plus grands parce que c'est à l'échelle européenne. Donc c'est bien plus long, mais la même logique. Donc en fait, nous, Wikipédia en France, c'est 30 millions de visiteurs uniques par mois. C'est en gros un Français sur deux qui va sur Wikipédia. Donc on explose ces seuils, on fait partie des très grandes plateformes, donc de celles qui vont devoir répondre aux plus d'obligations de moyens. Donc, ce qu'on a essayé de faire pendant cette campagne de plaidoyer, ça a été de dire, très bien, on peut raisonner en termes de seuil, parce que c'est vrai que c'est une bonne... Enfin, je veux dire, c'est facile, hein, les gros sont régulés, les petits moins. Mais pas tout à fait, on voulait rajouter des éléments qualitatifs, plus que quantitatifs, en disant, OK, il y a du quanti, c'est bien. Maintenant, il faudrait rajouter du qualitatif, comme un modèle économique, une viralité, par exemple, parce que c'est vrai que Wikipédia, ça n'a pas une viralité incroyable, c'est pas un site de libre expression. Il n'y a même pas de bouton pour, je sais pas, partager un article rapidement sur un réseau social, sur Twitter, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on s'est vu, on a trouvé ça un peu injuste d'être régulé bien plus que certains autres réseaux sociaux qui sont à la base les mauvais élèves, alors même qu'on n'est pas un danger systémique pour la nation. Donc ça a été notre deuxième grosse critique. Et la troisième grande critique, et j'arrête de vous embêter, c'est plus au niveau du DSA pour le coup, donc au niveau européen. Il y avait eu ces débats pendant la loi Avia il y a quelques années.
Dont le but était de légiférer. Exactement. Sur les contenus et qui a été heureusement largement censuré par le Conseil constitutionnel.
Exactement. Et donc là, pour le DSA, la présidence slovène a déposé des amendements il y a quelques jours. Donc c'était comme la loi Avia, c'était de mettre des délais pour que les contenus haineux soient supprimés, retirés, donc 24 à 48 heures. Donc encore une fois, ça c'est faisable pour probablement pour des grandes plateformes, et encore, il y a eu des événements qui ont montré que même s'il y avait beaucoup d'algorithmes et de robots, une grande plateforme pouvait pas, enfin, à des moments, pouvait pas respecter ces délais. Quand on est dans un modèle de modération bénévole, comment on fait si c'est un contenu qui est mis la nuit, le week-end, un jour férié? Enfin, ça paraît un peu ridicule, mais c'est vrai que les bénévoles, c'est un temps bénévole. Donc, c'est très compliqué d'imposer un délai quand c'est pas des gens qu'on paye et ou quand on n'a pas de robots et d'algorithmes. Donc voilà, c'est aussi une critique qu'on fait, c'est attention, c'est encore une fois, ça c'est faisable pour certains acteurs. Nous, c'est ça pour le coup, ça court-circuite complètement le modèle bénévole de modération.
Bah merci, non, c'était extrêmement complet. Je voulais pas t'interrompre par contre.
Ah non, ça y est, j'ai fini mon tunnel.
Non, mais c'est très clair, très complet, très clair. Merci beaucoup. Pierre-Yves, tu souhaites rajouter ou pas?
Bah, peut-être un petit mot. Ce qu'il faut bien comprendre et l'idée qu'on essaie de marteler, c'est, bon, idéalement, nous, on estime qu'il n'y a pas besoin de surréguler Wikipédia. Il y a déjà les règles de base, voilà, ça suffit. Eux, leur idée, c'est les acteurs qui ne font pas assez bien le boulot, voilà, il faut leur mettre des obligations, de nouvelles obligations, notamment de moyens et de transparence. Voilà, donc nous, on ne comprend pas trop ce que Wikipédia vient faire. Mais bon, soit on admet, ils n'ont pas voulu exempter Wikipédia ou les sites à but non lucratif ou les encyclopédies. Voilà, on a essayé plusieurs façons de le faire. En France, le législateur refuse. Mais du coup, nous, on pointe un peu cette incongruité, on l'a dit, d'accord, vous mettez dans le même sac Wikipédia et les autres, et du coup, bah, Wikipédia est souvent le meilleur acteur sur ces sujets-là, sur la lutte contre la désinformation, la lutte contre les contenus haineux, donc prenez-le comme norme, comme modèle, comme lièvre, et donc appliquez, généralisez les règles de fonctionnement de Wikipédia aux autres, alors qu'ils font plutôt l'inverse, ils sont en train de généraliser plutôt le mode de fonctionnement de Facebook aux autres et voire à Wikipédia. Et donc c'est là où il y a un peu la limite. Je me souviens, durant l'ère Trump, il disait les plateformes doivent être plus transparentes, rendre du pouvoir aux internautes. C'est typiquement le mode de fonctionnement de Wikipédia, et donc on leur dit, ne serait-ce, il y a un problème concret dans la mise en œuvre des lois, la loi séparatisme, donc la loi, c'est le surnom de la loi principe républicain, il n'y a pas de délai de mise en œuvre de la loi. Et on leur dit, bah non, un fonctionnement communautaire, ça prend du temps. Nous, on est en train de faire des réformes, par exemple, de mettre en place un code de conduite universel au sein du mouvement Wikimedia, ça va prendre 1 à 2 ans. C'est comme ça que fonctionne un site communautaire. C'est, ça prend du temps, la démocratie. Donc c'est là où ils sont un peu coincés, ils ont un double discours. Ils disent qu'il faut que les internautes aient plus de pouvoir, et en même temps, il faudrait qu'il il suffit d'appuyer sur un bouton. Donc ça veut dire c'est un modèle plutôt pyramidal, vertical, où il y a un chef qui contrôle toute la plateforme.
Oui, et ça m'évoque quelque chose, je pense, qui est important aussi à avoir en tête, c'est qu'on peut définir effectivement des critères qui se veulent objectifs, mesurables, qui seraient, enfin, sous l'apparence d'une forme de neutralité politique, mais on voit bien que ça peut avoir des effets déterminants, structurels, très concrets sur la manière dont on va pouvoir se développer, voilà, les plateformes, les modes de fonctionnement Wikipédia, et sur s'il y a certaines obligations, vos pratiques vertueuses peuvent se retrouver mises à mal, et donc ça a des impacts concrets et même techniques finalement. Alors, avant qu'on fasse la pause, puisque tu parlais vraiment de la représentativité, enfin, d'en faire entendre aussi la voix des utilisateurs, quel est le poids politique de Wikipédia, de Wikimedia? Comment vous êtes reçu? Voilà, vous allez soulever tous ces red flags, toutes ces alertes. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous vous sentez entendu? Est-ce que vous, voilà, comment est-ce que, voilà, Wikipédia a de fait, je pense, une notoriété, un poids symbolique. Et est-ce que ce poids symbolique se traduit aussi dans un poids politique?
Alors, on est plutôt bien reçu. Pour répondre à la question directement, on est plutôt bien reçu. Maintenant, pour être reçu, il faut que ce soit nous qui appelions. Donc, encore une fois, il y a un autre paradoxe, c'est que, et on l'avait soulevé auprès des pouvoirs publics avec Pierre-Yves, c'est qu'on est régulé, de fait, parce que, comme je vous disais, on explose les seuils, on est un grand des grands, mais pour autant, on est rarement dans les discussions, sauf si on le demande. Donc, on a fait à peu près le tour de Paris, hein, depuis mon arrivée, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens, donc effectivement, on est un peu... comment dire, du bon côté de la barrière. Quand on arrive et qu'on dit qu'on est chargé de plaidoyer pour Wikipédia, c'est probablement plus facile d'être reçu que si on est chargé de plaidoyer pour une autre plateforme, une autre big tech. Donc à ce niveau-là, ça va. Mais c'est vrai que on a dû, pour ce projet de loi principe républicain, alors qu'on faisait en plus partie des grosses plateformes, donc qui avaient les doubles d'obligations, en tout cas deux fois plus d'obligations et les plus grandes, on a dû, pour se faire auditionner, appeler, pareil pour les parlementaires. Alors, la plupart des gens connaissent Wikipédia sans vraiment connaître Wikipédia. Hein. On le connaît tous, mais on ne sait pas vraiment qui y a derrière et comment ça fonctionne. bon, même si on est très bien reçu, in fine, on n'a pas eu gain de cause. Donc on sentait quand même qu'on avait, comme ce que disait Pierre-Yves, demandé une exemption totale, et puis après on essayait de jouer sur autre chose, ça n'a pas marché. On sentait aussi une volonté française, en tout cas du gouvernement français, de se prendre en exemple, en tout cas quand ils ont fait cavalier seul avec cette loi, et ils n'étaient pas prêts à faire des exceptions pour certains acteurs. Donc il y a aussi un gros paradoxe à ce niveau-là qu'on essaye de mettre à mal, mais franchement, c'est pas toujours facile.
J'imagine, merci beaucoup. Je vous propose de faire une pause musicale pour qu'on puisse un peu s'aérer le cerveau. Nous allons donc écouter Drôle de cadence par Zincaro. On se retrouve juste après. Une belle journée à vous à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Drôle de cadence par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous échangeons avec Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France, et Nafsicah Papanikolaou, excuse-moi, chargée de plaidoyer de l'association. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors avant la pause, nous avons évoqué la grille de lecture de Wikimedia, leurs actions sur les questions de régulation du numérique. Et je vous propose de passer donc à un autre sujet qui est en fait très lié, hein, qui concerne tout particulièrement Wikipédia, la lutte contre la désinformation. Alors évidemment, avec les élections qui se profilent, hein, puis dans un climat que je ne vais pas prendre la peine de qualifier ici, le contrôle de l'information, la lutte contre la désinformation apparaissent comme des enjeux politiques forts. En tout cas, ils sont beaucoup revendiqués. Alors évidemment, ce n'est pas qu'une question de politique publique ou de rapport de force politique. Avant ça, en fait, je pense qu'on peut dire que c'est une question éthique ou politique dans le sens le plus noble du terme. Bah, c'est très important dans une démocratie particulièrement d'avoir accès à une information fiable, de qualité, complète et puis sans restriction injuste. Et je pense que c'est là qu'intervient tout particulièrement Wikipédia et a un rôle social, à mon sens, très important. Et justement, bah, quelle est votre analyse de ça ? En quoi Wikipédia est-elle une source essentielle de savoir et de connaissance et de diffusion du savoir et de la connaissance ? Et comment ça fonctionne de ce point de vue-là ? Mais ça dit, sur le fonctionnement, vous l'avez déjà pas mal évoqué. Pierre-Yves ?
Oui, bah, avec mon regard un peu de... sur longue durée, c'est vrai qu'étonnamment, les premières années, pendant longtemps, notamment en France, Wikipédia a été très critiqué de... d'oser donner la voix un peu au sans-voix, hein, de ne pas filtrer grâce au CV, grâce au nom, tout ça. Donc on l'a payé assez, assez lourdement, hein. On a été blacklisté, mis de côté, très critiqué. Et puis le hasard du calendrier, hein, de la création, il faut se remettre dans le contexte de 2001. 2001, c'est l'année de... où débarque la télé-réalité, hein, le fameux Love Story en France, et Wikipédia. Et les deux étaient vus, oui, comme une attaque contre une indigence culturelle. Mais ces dernières années, paradoxalement, Wikipédia s'en sort plutôt bien. Et c'est plutôt le reste du web, en tout cas, enfin les grandes plateformes, qui montrent plutôt leurs limites. Et donc on fait appel notamment à Wikipédia pour la lutte contre la désinformation, contre les contenus haineux. Et donc on salue la modération. Et donc on peut et être gigantesque en termes d'audience. Donc comme l'a rappelé Nafsika, c'est un Français sur deux qui le consulte chaque mois. Et dans le monde, c'est à peu près pareil, en tout cas dans le monde occidental. Wikipédia reste encore à développer dans les pays du Sud. Globalement aussi Internet, hein, reste à développer dans les pays en développement. Et donc voilà, c'est vrai que la désinformation qui est massive ces dernières années sur le web, Wikipédia s'en sort plutôt bien grâce à son modèle communautaire et ses règles de fonctionnement qui sont plutôt inspirées du milieu universitaire. En fait, c'est assez classique, hein, les règles de fonctionnement de Wikipédia, contrairement à ce qu'on martèle. Là-dessus, Wikipédia n'a pas disrupté, comme on dit dans la Startup Nation, mais sur d'autres aspects, c'est plus disruptif.
Oui, en fait, c'est le principe. Mais je crois que les hyperliens, c'est le même principe. C'est qu'on cite les sources. Alors, tu parlais d'ailleurs de double sourçage. Je crois que Nafsika, tu me mentionnais ce terme. Ça, je pense que c'est un bon exemple de comment fonctionne Wikipédia, peut-être.
Alors, une idée. C'est ça. C'est sur Wikipédia. Alors, on dit qu'on peut écrire ce qu'on veut sur Wikipédia. C'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où, quand on veut rédiger un article, il y a des principes et des règles à suivre. Notamment une neutralité de point de vue, donc on n'est pas là pour faire la propagande de telle ou telle idée. Il faut aussi que ce soit une source secondaire, donc ça peut pas être une théorie ou une thèse qui vient de sortir, par exemple. Il faut que... y a d'ailleurs pas mal de femmes et d'hommes politiques qui n'ont pas de... Enfin, c'est plutôt des députés, en général, si je dis pas de bêtises, qui n'ont pas d'articles Wikipédia parce qu'il n'y a pas eu assez d'articles sur eux, de sources médiatiques un peu de confiance. Donc, on a déjà eu des questions de pourquoi Madame un tel ou Monsieur un tel n'a pas son article, mais parce qu'on ne peut pas faire des articles sur n'importe qui à partir du moment où on n'a pas assez de ressources médiatique pour justement sourcer, ça fait beaucoup le mot source, mais bon, c'est un peu ça. Ouais. Donc c'est ça, il ne peut pas y avoir des articles sur tout et n'importe quoi. Il faut aussi que techniquement ce soit du contenu encyclopédique. Enfin, il y a quand même pas mal de principes à suivre. Je crois que j'en oublie un, mais je ne sais plus lequel c'est, ou peut-être que j'en oublie pas. Mais en tout cas, voilà, y a des... on ne peut pas écrire n'importe quoi sur n'importe qui quand on veut sans qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les sources secondaires. Ça ne peut pas être une source primaire et quelque chose qui est inédit. Ça ne peut pas être une théorie inédite. Donc ça, c'est très important dans la lutte justement contre la désinformation et les fake news.
Et du coup, alors peut-être ça peut être un exemple, mais la question me vient. Donc on sait que c'est un... Tu parlais de fonctionnement autogéré. Je trouve ça fascinant d'ailleurs qu'on rende de l'information accessible. En fait, on n'a pas besoin d'une autorité centrale, peut-être même au contraire. Alors du coup, comment par exemple sont décidés ce qu'est une source fiable? Parce qu'on parle de médias sûrs, de références. Là, j'imagine que ça fait partie des choses qui sont débattues peut-être et qui ne sont pas figées dans le temps, sans doute.
Oui, tout à fait. Donc là, ce sont les communautés de contributeurs, hein, de chaque langue. Wikipédia est divisé par langue. Fonctionne par langue. Donc la Wikipédia en langue française est amenée à débattre, notamment à créer ce qu'on appelle un observatoire des sources. C'est là où ils synthétisent un peu les débats qui sont répandus dans toute l'encyclopédie, savoir si un média est réputé fiable ou pas. Et donc, par exemple, bah, pour le dire clairement, hein, le François, le site François, qui a repris le François historique, hein, de la version papier, est plutôt qualifié comme une mauvaise source ces dernières années. Il n'est pas totalement banni parce qu'il y a le François historique qui peut encore servir de source, la version papier. Mais par contre, maintenant, ces dernières années, c'est devenu un site complotiste de désinformation. Et donc, voilà, qui ne va pas être fiable. Ce qui est un peu compliqué, c'est que sur Wikipédia, il y a tout un tas de d'articles, ça va de des articles encyclopédiques purs hein, qu'on va retrouver sur Britannica Universalis, donc ça va être des sujets très très sérieux comme le fameux Histoire du communisme, je le mentionne souvent parce que c'est un des articles les plus longs, il doit faire plus de 100 pages si on l'imprime, jusqu'à des sujets beaucoup plus légers comme les Pokémon ou le catch, et donc le degré de sursage aussi n'est pas le même. Histoire du communisme, on va débarquer avec Voici ou Closer pour modifier l'article, surtout qu'il est très ancien, alors que sur des sujets moins conflictuels, moins sérieux, voilà, on peut se permettre de sourcer la date de décès ou le lieu d'inhumation d'une personnalité avec ce genre de médias.
Oui, c'est en fonction du contexte aussi. Du coup, ça répond, je pense, à la question de Marodil qui demande si un journal régional, par exemple, qui fait un article sur son député, ça peut être une source fiable en fonction aussi du contexte. Alors, du coup, je pense qu'il y a une question qui me paraît importante, ça va être celle, on parle de vandalisme, et notamment qui va, je pense, être particulièrement importante avec les élections, les présidentielles et législatives qui viendront dans la foulée. Parce qu'on parle de vandalisme, on peut imaginer si n'importe qui peut participer, mais en fait, tu as déjà commencé à y répondre, Asika. Comment éviter qu'une personne, par exemple, supprime des choses qui la dérangeraient de sa propre page, hein, une personne candidate par exemple, ou une autre d'attaquer celle d'un opposant politique pour ajouter des fausses informations? Et en fait, je pose la question, mais vous y avez déjà répondu, mais on imagine qu'en termes de volume et de risque, les périodes comme celle des élections sont des périodes assez critiques sans doute. Comment vous les appréhendez?
Alors effectivement, c'est des périodes assez tendues pour les bénévoles, hein, surtout, c'est pour les communautés bénévoles et pour les patrouilleurs. Alors les bénévoles se passent bien de l'association, enfin je veux dire, ils se débrouillent, ils et elles se débrouillent très bien sans Wikimedia France, ils font un travail quotidien assez spectaculaire. Mais c'est vrai que cette année, pour les élections présidentielles et en vue de ces élections, parce que c'est vraiment une période assez chaude, l'association a décidé de venir en soutien en fait à la communauté francophone. Donc en mettant en place, c'est encore un peu en discussion en interne, mais on a décidé d'aider par exemple les bénévoles modérateurs en leur offrant des abonnements à des kiosques de journaux internet pour qu'ils aient justement un accès à la presse et aux médias avec des bonnes sources et plutôt facile pour eux. On a aussi mis en place, c'est encore en cours, mais un tableau de veille. Alors ça, c'est j'en suis chargée avec un de mes collègues qui s'appelle Rémi Gerbet, qui est délégué opérationnel. Donc en fait, c'est pendant l'élection présidentielle, de fait, les bénévoles bloquent les pages des candidats, justement pour éviter ce genre de vandalisme, de caviardage, de guerre d'édition, etc., etc. Donc de fait, les pages des futurs candidats et candidates officiels seront bloquées. On ne pourra pas les modifier. Nous, on est en train de mettre un tableau de veille pour justement pas faire une veille que purement sur les candidats et les candidates, mais sur tous les thèmes qui pourront impacter la campagne. Donc, alors évidemment, on va aller de nos thèmes adorés en France, de la laïcité à l'immigration, à la sécurité, à la santé, etc., au pouvoir d'achat. Et en fait, avec tout, sur chacun de ces thèmes, il y a des articles Wikipédia qui sont liés en fait à ces sujets-là et qui pourront potentiellement faire office de caviardage ou de vandalisme. Donc là, nous, notre rôle, c'est de faire une liste de ces articles qui seront potentiellement impactés et de dire, voilà, alors lui, il est assigné à surveiller, lui, RAS, voilà. Donc on essaye de vraiment d'être un outil utile pour les communautés, en tout cas pour la communauté. Et en dernier lieu, on va quand même rappeler, on a voulu rappeler, je crois que c'était une idée de Pierre-Yves d'ailleurs, sans personnifier l'idée, mais on a voulu rappeler les règles aussi de contribution sur l'encyclopédie, notamment aux candidats. Alors même si leur page est bloquée, on veut quand même leur rappeler la dizaine de règles à suivre pour pas justement avoir de problème à ce niveau-là, qu'on enverra et qu'on publiera d'ailleurs publiquement hein, sur nos réseaux pour d'ailleurs le rappeler à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'en tout cas en tant qu'association, on appréhende cet événement qui va être assez folklorique.
Ce que je trouve intéressant, c'est en fait ce que je retire, et vous pourrez me corriger, mais en fait vous créez rien de plus, juste vous renforcez vos bases. Vous avez des bases, Wikipédia a des bases de fonctionnement saines, et vous renforcez en fait vos bases de fonctionnement pour juste vous adapter à une situation qui est très particulière, certes, mais en fait structurellement vous êtes déjà
équipé. Oui, et puis structurellement, c'est vrai que les communautés font déjà un tel travail que en fait on rajoute, enfin c'est un espèce de bonus, mais même sans ce bonus. ça leur est fait. C'est juste qu'on essaye de faire en sorte de les soulager aussi dans cette période et de répondre en fait à leurs besoins. C'était tout simplement un appel. On leur a tendu la main. Ceux qui ont été intéressés l'ont pris et on a vu avec eux quel était le meilleur moyen, justement aussi pour pas perdre de temps et pour pas leur rajouter à eux du travail, le meilleur moyen pour que l'association les aide vraiment à traverser ce moment, quoi.
Et du coup, toi, Pierre-Yves, en tant que bénévole, comment tu anticipes tout ça? Enfin, je sais pas, parce que j'imagine, voilà, tout Wikipédia est précieux pour toi, c'est quelque chose voilà, qui, en plus, a traversé une partie de ta vie. Comment tu...
Bah, il est vrai que, globalement, il n'y a pas besoin de changer le mode de fonctionnement. On l'a vu durant le Covid, hein, les tout premiers mois de la pandémie, le fameux tout premier confinement de mars. Contrairement aux autres plateformes qui criaient, qui alertaient sur le problème de la modération humaine, Facebook et compagnie n'y arrivaient pas et ont dû généraliser les robots. Wikipédia a tenu à un moment, en plus, très stratégique pour la société, hein, où le besoin en information était très prégnant. Hein. Même Wikipédia a vu un pic de trafic en plus, hein, même si le trafic déjà est très haut. Donc ça a été très visible. Et puis là, il y avait un besoin d'informations fiables. Dès qu'on touche à la santé, c'est quand même hyper stratégique. C'est un peu aussi l'angle mort des pouvoirs publics. Hein. C'est ce que j'avais alerté durant les débats de la loi des informations, la loi de manipulation d'information, qui porte surtout sur la protection des élections. Alors ça, c'est un bien aussi essentiel, mais encore plus essentiel, j'ai l'impression, pour les élus. Et donc, ils avaient un peu mis de côté la santé. Il y a d'autres sujets aussi très importants. Donc c'est un peu dommage. Peut-être pour revenir, pour clarifier ce que venait de dire Nafsika, les articles concernant les candidats ne sont pas protégés par défaut. C'est juste à la suite de vandalisme, en fait. Mmh. Donc bien souvent, ça dégénère. Donc notamment, certaines grandes personnalités, comme le chef de l'État, a déjà sa fiche de protégé. Et donc si le candidat la restera protégée. Mais c'est vrai que le vandalisme est assez récurrent. Les soirs de match de foot, par exemple, c'est le bins sur les biographies de joueurs ou d'arbitres de foot.
Ça fait partie de l'exercice, en fait, du coup, quoi. C'est une encyclopédie vivante, et donc ça fait partie un petit peu... La démocratie, il y a des tensions dedans, et c'est ça, en fait. Mais il faut savoir le gérer pour comment, quoi.
Effectivement, c'est ce qu'on rappelle, et en même temps, on a un site aussi, on rappelle aussi aux internautes que Wikipédia est un commun, et comme tout commun, il est fragile. Comme l'eau et l'air, il faut aussi protéger Wikipédia. Fort heureusement, tous les articles ne sont pas soumis à vandalisme. Hein. Moi, j'ai surveillé de près, parce que je m'attendais à des dérapages, l'article consacré au massacre du 17 octobre 61. Et fort heureusement, déjà j'étais étonné, il n'était pas protégé. Donc c'est aussi, je salue les citoyens, hein. Ça montre que aussi qu'il n'y a pas besoin de barricader préventivement tout ce qu'on fait. On voit le reste de la société, on érige des murs, des barricades, des bancs anti-SDF, hein, voilà, toutes les personnes qu'on souhaite pas voir. Mais les gens ne réalisent pas que sur Wikipédia, il y a une infinité d'articles qui sont protégés. C'est moins d'1%. C'est aussi à saluer, et ça peut peut-être faire réaliser sur un changement plus global qu'en faisant confiance aux gens. Globalement, ça fonctionne. Il faut quand même des gendarmes. Wikipédia n'est pas naïf là-dessus. Il y a énormément de modération. Il y a un fonctionnement assez strict, hein, pour quiconque a essayé de faire n'importe quoi sur l'encyclopédie. Mais voilà, je pense qu'on pourrait trouver un juste milieu. Mais aussi, il faut peut-être que certaines personnes prennent conscience. Il y a même des fois des associations qui, par militantisme, se vantent de certains vandalismes. J'ai en tête Greenpeace France, j'avais dû rappeler à l'ordre sur Twitter. Donc chacun doit aussi protéger ce bien. Wikipédia a l'air très fort, très, très puissant, mais un jour, peut-être que les modérateurs, qui sont des bénévoles, en auront marre de passer leur soirée ou leur week-end à nettoyer les bêtises faites par d'autres. Et donc, ce serait bien que tout le monde prenne conscience de ça, tout comme on fait pas n'importe quoi dans la rue ou qu'on protège nos plages. Donc, il faut aussi protéger notre environnement numérique.
Ah, super, merci beaucoup. Et en fait, je pense qu'on peut dire l'autogestion, c'est pas faire n'importe quoi, et au contraire, ça demande énormément de rigueur. Et j'en profite, oui, pour saluer et vraiment envoyer tout mon amour à toutes ces personnes qui font de Wikipédia ce qu'est Wikipédia. Et je pense que tu nous offres, sauf si vous voulez réagir encore sur ce sujet, mais une belle transition vers le dernier sujet qu'on souhaitait évoquer en quelques minutes, les communs numériques, puisque tu as évoqué ce terme, puisque tu l'as évoqué, à toi la responsabilité de définir ce qui est derrière un commun numérique. Alors, sachant qu'il y a une infinité de définitions, on ira vérifier sur la page Wikipédia si on est d'accord. et pourquoi du coup pourquoi Wikimedia est un commun et comment Wikimedia s'inscrit dans cette mouvance. Pierre-Yves.
Oui, alors si vous me permettez, je vais lire une petite définition pour être sûr de ne pas me tromper. Donc un commun désigne une ressource produite ou entretenue collectivement par une communauté d'acteurs hétérogènes et gouvernée par des règles qui lui assurent un caractère collectif et partagé. Donc les principaux communs numériques qu'on a en tête, évidemment, vont être les logiciels libres, Wikipédia et compagnie. L'idée de base, comme je le rappelais, Wikipédia n'est pas forcément révolutionnaire sur tous ses aspects, mais dès le début, même avant Wikipédia, en fait, il faut bien, si on connaît un peu l'histoire, en fait, Wikipédia est le deuxième projet créé par les fondateurs, par Jimmy Wales et Larry Sanger, mais le tout premier projet s'appelait Nupedia, qui ressemblait très amplement à Britannica Universalis, mais la nouveauté, la toute première nouveauté et un peu le facteur disruptif qu'ils ont voulu mettre en place, c'était la licence libre. Donc dès le départ, même s'ils ont copié-collé le fonctionnement d'une encyclopédie universitaire, académique, où les gens étaient triés sur le volet pour rédiger l'encyclopédie, ils avaient en tête quand même le partage des connaissances grâce aux licences libres dont ils avaient eu vent dans le monde du logiciel libre. Il n'y avait pas encore Creative Commons à cette époque-là. Donc c'est très important aussi, et encore de nos jours, hein, ça surprend un peu le législateur quand on leur dit qu'on a le droit d'utiliser le contenu, même d'en faire des livres, même d'en faire n'importe quoi, des podcasts, tout ça. Ça surprend encore beaucoup d'acteurs, ça les perturbe sur le fonctionnement notamment du modèle économique lié à la plateforme. Ils comprennent pas comment ça peut résister alors que tout le monde potentiellement peut concurrencer Wikipédia, peut faire une alternative, mais on l'a vu en 20 ans, ça n'est pas arrivé, ou en tout cas personne n'est arrivé à dépasser Wikipédia. Mais ça permet aussi de maintenir une forme de concurrence, même si sur ce sujet de la connaissance, Wikipédia par hasard est devenu un peu hégémonique, hein. C'est une critique tout à fait pertinente que certains font. L'idée qu'on peut réutiliser le contenu, c'est-à-dire forquer Wikipédia du jour au lendemain, pousse aussi Wikipédia à se bouger les fesses, à innover constamment, à améliorer la modération, à trouver le juste milieu entre bien modérer et offrir du contenu de qualité. Notamment, là on sort un peu du sujet, mais c'est vrai qu'il y a des débats sur la place des femmes sur Wikipédia. Ça vient un peu en contradiction du mode de fonctionnement, du sourçage, donc en fait de refléter la société. Jusqu'à présent, Wikipédia fonctionnait comme ça, disant bah nous on part de sources admises, mais du coup ces sources admises sont ultra biaisées. Et donc c'est pour ça qu'on arrive in fine à ce qui est moins de 20% des biographies consacrées aux femmes sur la Wikipédia francophone, et puis les autres langues sont à peu près au même niveau. Donc voilà, je pense que cette concurrence, finalement entretenue grâce aux licences libres, est une bonne chose et évite que même un acteur aussi grand que le mouvement Wikimedia puisse déraper et devenir hégémonique, et avec tous les travers qu'on peut voir chez d'autres grandes plateformes.
Nefska, tu souhaitais réagir également ?
Alors peut-être ajouter deux choses sur la notion des communs et plus précisément celle des communs numériques. En fait, les communs numériques ont deux caractéristiques nouvelles. La première, c'est que l'usage de la ressource par les uns ou les unes ne va pas limiter les possibilités d'usage par les autres. Donc en fait, on va dire que c'est une ressource non rivale. Et la deuxième caractéristique, c'est de dire que sa préservation ne va pas passer par la réservation du droit d'usage à une communauté restreinte. Donc on va dire que la ressource est non exclusive, elle appartient à tout le monde en fait, à personne et à tout le monde. Donc le lien avec Wikipédia, c'est ça, c'est que Wikipédia, en gros, plus va y avoir de contributeurs, plus va y avoir d'informations, plus va y avoir de modération, etc., etc. Et en fait, plus il y a une communauté importante, plus le cercle va être vertueux. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une ressource non exclusive et non rivale. C'est que plus les gens s'en servent, meilleur en fait est presque le service. Donc ça, je trouvais ça important de rajouter ça. Et peut-être de parler, mais peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, des pouvoirs publics.
Voilà.
Allons-y. Justement, à ce niveau-là, on voit que les pouvoirs publics parlent de plus en plus de communs numériques, de protéger les communs numériques, etc. C'est devenu un peu quelque chose à la mode.
Gimmick, comme on dit. Ouais.
Exactement. C'est ça. Donc nous, en fait, on avait parlé avec Éric Botorel, qui est un député LREM de la République en Marche.
Qu'on avait reçu dans Libre à vous pour nous parler de son rapport, bon rapport d'ailleurs sur l'ouverture des données. Et alors, on peut penser politiquement ce qu'on veut de lui, mais effectivement, sur ces questions-là, il fait partie de ces députés qui ont une vraie connaissance des sujets.
Bah, c'est ça. Non, en fait, ça part un peu de cette rencontre avec Éric Botorel pour parler justement de ce rapport sur l'état des lieux de la politique de la donnée des codes sources en France. Et justement, il alertait sur la nécessité d'opter pour une politique d'ouverture. Donc, on avait parlé de tout ça avec lui. Et en fait, ce rendez-vous, nous, avait aussi initié une réflexion où on se disait que il fallait quand même parler à d'autres personnes qu'Éric Botorel, qui était déjà qui avait une pensée très, très poussée sur cette question et qui savait tout à fait de quoi il parlait. Donc, sans critiquer les ministères, on est quand même allé toquer à leur porte pour ministère de la Transformation publique. Donc, c'est Madame Amélie de Montchalin. Donc, on avait parlé avec deux de ses conseillers, justement, sur la notion des communs, comment on peut développer les communs, notamment au niveau de l'administration. Et donc, nous, du côté de Wikimedia France, on avait rédigé une note, toute un peu basique, sur les communs. À la fin, on avait édicté quelques recommandations à destination des agents de l'État. Alors, sans rentrer dans les détails, on avait dit que ce serait très bien de favoriser, par exemple, l'usage de logiciels libres au sein même de l'administration. On avait d'ailleurs rappelé que la NASA fonctionnait entièrement sous logiciel libre, ce qui paraît fou et en même temps pas si fou que ça. On leur avait proposé aussi la participation des agents de l'État aux communs numériques, de pouvoir réserver du temps de travail pour justement être contributeur. Donc on avait fait toute une liste comme ça de recommandations. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça donne. On sait juste que Madame Amélie de Montchalin a publié il y a quelques semaines une espèce de feuille de route.
Tous les ministères, effectivement, ont mis en application d'une circulaire du Premier ministre qui est plutôt encourageante.
C'est ça, c'est 500 actions, si je ne dis pas de bêtises, donc ça en fait beaucoup. Quinzaine de ministères. Mmh. Wikipédia est beaucoup citée. Évidemment. Enfin, c'est toujours un exemple quand
c'est
on parle
facile, comment.
C'est facile,
en même temps, c'est bien de le faire aussi.
C'est ça. Et donc nous, là, justement, on va essayer qu'il y ait une espèce de suivi aussi de toutes ces actions qui sont sur ce papier et de voir avec les rédacteurs et les ministères qu'est-ce qui est fait concrètement ou qu'est-ce qui va être fait dans les 2-3 prochaines années qui sont les délais un peu de cette feuille de route à ce niveau-là.
Tout à fait. C'est vrai que l'April suit également ça et on est un peu dans cette situation où, OK, alors il y a des annonces intéressantes sur le papier. Bon, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même déjà une avancée intéressante. Et oui, donc on va voir. Il faut être vigilant un petit peu.
C'est ça.
Donc, du coup, j'imagine que Wikimedia va garder un petit peu ce rôle de vigie sur ce sujet aussi.
Ok. Exactement.
Alors, je regarde l'heure et il me reste très peu de temps. Je vous propose une minute chacune. Voilà, si une idée forte vous voudrait qu'on retire, un sujet que vous n'avez pas évoqué, que vous pousseriez les personnes qui nous écoutent à aller creuser. Nafsika, puisque tu avais la parole.
Alors, tout bêtement, mais c'est très important, c'est. Comme on rappelait avec Pierre-Yves, Wikimedia France et Wikipédia, alors peu importe, mais en tout cas, si c'est des projets que vous avez envie de soutenir, il ne faut pas hésiter. Parce que mine de rien, Wikimedia France, on vit beaucoup aussi grâce aux dons des uns et des autres, comme Wikipédia. C'est vrai qu'on l'oublie souvent. On pense que, je ne sais pas si c'est toi, Étienne, qui le disais tout à l'heure, ou si c'est Pierre-Yves, qu'on a cette image de Wikipédia et de l'association super forte, immense, 30 millions de visiteurs uniques par mois en France. On est très peu derrière tout ça. Enfin, les communautés, les bénévoles sont quand même pas beaucoup comparé à l'immensité des articles. Et les salariés, pareil. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier de dire à des moments aussi que si c'est des projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez soutenir, n'hésitez pas à les soutenir. Donc, vous pouvez aller facilement sur le site de Wikimedia France pour faire un don.
Faire un don, ouais. S'impliquer.
Mais même
un
euro, il n'y a pas de petits dons. On le rappelle aussi, souvent, il n'y a pas de petits dons. C'est grâce à vous aussi que ces commandes numériques, en tout cas que des projets comme Wikipédia peuvent continuer à voir le jour. Et c'est ce que Pierre-Yves disait, ça reste des choses assez fragiles. Donc, il ne faut pas hésiter à les soutenir si c'est des choses qui vous plaisent. En tout cas, je parle aux auditeurs et aux auditrices de ne pas hésiter à nous soutenir. On continuera nos efforts.
Le message est passé. Pierre-Yves, un dernier mot ?
Un petit scoop, c'est un peu hors sujet, mais ça peut intéresser vos auditeurs. La Fondation Wikimedia est en train de déployer des serveurs en France vers la fin de l'année, où il y aura peut-être un peu de retard. Le timing est moins strict que chez les big tech. Marseille accueillera le 6e, je crois, ou 7e data center, donc ferme de serveurs qui fait fonctionner Wikipédia. Donc les lecteurs, jusqu'à présent, les lecteurs européens consultent Wikipédia par le biais d'Amsterdam. Je crois que ça sera toujours le cas, mais dans certains cas, ils consultent percuteront aussi Marseille. Marseille desservira l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Techniquement, ça sera des caches, parce que le logiciel est encore assez limité et en lecture, en fait, les serveurs principaux, le data center maître, est aux États-Unis, mais là aussi, c'est en train d'être changé et il y aura peut-être à terme, le logiciel permettra d'avoir plusieurs data centers, donc notamment les rédacteurs européens consulteront, enfin modifieront peut-être d'ici quelques années, peut-être le data center d'Amsterdam, ça sera un peu plus rapide pour eux. Paradoxalement, les lecteurs jusqu'à présent bénéficient d'une meilleure qualité de service que les contributeurs.
Merci, c'est important aussi, on se rappelle, c'est immatériel, mais en fait, il y a aussi de la matérialité derrière tout ça. Le temps file, un grand merci à vous deux, moi j'ai trouvé l'échange très intéressant, j'espère que nos auditeurs et auditrices aussi, que vous aussi bien sûr, et puis bonne continuation, bon
merci,
courage dans la lutte, et à bientôt j'espère. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons quitter Throne Room par Sawtooth, et on se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Écoutez Throne Room par Sawtooth, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Être enregistré rend-il con ? C'est la question que s'est posée Luc dans sa dernière pituite. Une pituite qu'il nous a proposée en pré-enregistré, donc on l'écoute et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix des possibles.
Pour la seconde fois, je livre une pituite enregistrée. C'est aujourd'hui totalement banal de s'enregistrer. Il y a de longue date une mode des autoportraits qui, bizarrement, perd régulièrement de l'altitude. Les selfies d'abord, qui ont donné lieu à cette merveilleuse invention qu'est la perche à selfie. Un objet qui m'a permis d'observer l'ampleur de ma calvitie. L'objet semble avoir disparu des lieux publics, puis le selfie lui-même est devenu has-been, et on a commencé à parler de dick pic à la place. Je pense que pour être en avance sur son temps, il faut tout miser sur ses genoux, voire ses orteils. Personnellement, j'étais en avance sur mon temps au début des années 2000 avec mon avatar dans les forums. C'est une photo de mon pied. Mais il y a aussi depuis des années tous les enregistrements qu'on n'a pas fait volontairement, même si on sait qu'on est enregistré. Les caméras de vidéoprotection sont bien mal nommées parce qu'elles ne nous protègent pas de l'humiliation d'être matées en situation embarrassante. Il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos de caméras de sécurité accessibles sur Internet qui révèlent les infortunes de kidam malchanceux. N'importe qui peut se retrouver demain sur tous les écrans en train de s'extraire un Mickey depuis le tréfonds de son appendice nasal. Les agents de sécurité ont un super boulot, leur vie professionnelle est une longue poilade à nos dépens. Et il y a les enregistrements dont on ne connaissait pas l'existence. C'est une chose que tente de faire découvrir une femme sur sa chaîne TikTok dévolue aux données privées. Après s'être auto-infligé des enceintes connectées Amazon, elle a récupéré un paquet de données, dont des milliers de petits enregistrements audio. Amazon conserve ce genre de son indéfiniment et les fait écouter à des travailleurs précaires un peu partout dans le monde, qui ont le privilège de pouvoir se moquer d'inconnus au prétexte d'améliorer la reconnaissance vocale. Et il y a Apple, dont une étude récente montre que ses prétentions à la défense des données privées et de ses clients n'excluent pas la collecte de beaucoup d'informations. Même sans enceinte moucharde chez soi, nous restons massivement enregistrés. On le sait, on le déplore, mais au final, nous y sommes tous soumis. Ça me rappelle une vieille lecture. Il y a plus de 100 ans, Max Weber expliquait que les premiers protestants étaient convaincus qu'ils étaient prédestinés. Puisque Dieu était omniscient, il savait déjà comment chacun allait réagir aux épreuves, quels étaient leurs sentiments et leurs pensées. Puisque toute faute, à commencer par la prétention de se croire élu, était irrémédiablement inscrite sur son ardoise, la seule échappatoire était d'exceller à la place qui avait été assignée par le grand architecte. Comme les premiers protestants, nous sommes transparents, ce qui paradoxalement nous retire toute possibilité de rester invisibles. Comme eux, nous devrions être paralysés à l'idée que toute faiblesse, tout passage à vide est inscrit sur notre ardoise numérique jusqu'à la fin des temps. La différence, c'est que cette transparence qui nous accable est bien plus tangible qu'un ennemi imaginaire caché dans le ciel. On a bien mis en place le droit à l'oubli avec l'espoir de contrer l'implacable mémoire d'Internet, mais c'est un droit fondamental à être nul et con qu'il faudrait mettre à la place. Le problème est que la connerie est le carburant des GAFAM, des usines à trolls et du commerce à destination du grand public en général. C'est ce que le témoignage de Frances Haugen devant le Congrès américain a confirmé. Plus de colère, plus de haine, plus de mensonges donnent plus de profit. C'est assez logique, le marketing et la pub cherchent depuis des décennies la décision impulsive et irrationnelle. Et l'accès à plus de données permet d'accentuer le mouvement. C'était pas mieux avant, c'était juste moins sophistiqué et moins systématique. Notre stratégie d'adaptation est bien différente de celle des protestants de l'époque. Puisqu'on ne peut plus camoufler notre connerie et qu'elle est favorisée par les grandes puissances cachées dans les nuages, alors autant la revendiquer, l'étaler partout avec fierté et avec l'envie d'en découdre. J'assume est la phrase typique, alors que bien souvent c'est les gens autour du con qui assument les conséquences. Je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense que nous devrions l'élever au rang de divinité. Et oui, la connerie est universelle. Ne sommes-nous pas tous le con de quelqu'un d'autre? La connerie est infinie. Einstein avait un doute pour l'univers, mais pas pour l'imbécilité humaine. La connerie est omnipotente. Les cons, ça ose tout. Et puis, il est si difficile de faire collaborer les gens alors qu'un con seul peut si facilement tout faire péter. Embrassons donc ce stade ultime de la mystique et prosternons-nous devant notre maître à tous. Ainsi, l'humanité sera enfin unie sous une même bannière. Je ne doute pas qu'un schisme apparaîtra bien rapidement, ce qui serait très con et renforcerait la pertinence de notre nouvelle foi. C'est implacable.
Merci à Luc pour cette nouvelle pituite que j'ai personnellement trouvée extrêmement intéressante et d'utilité publique. Voilà, maintenant nous pourrons chacun son avis sur être enregistré rend-il con. Alors faute de temps, nous n'allons pas faire d'annonce mais de fin d'émission, mais je vous invite à retrouver, comme d'habitude, les événements près de chez vous, ainsi que les associations locales du logiciel libre sur l'agenda-du-libre.org. Une ressource inestimable. Alors notre émission effectivement se termine et je remercie les personnes qui ont participé. Noémie Berger, Nafsika Papa Nicolaou, Pierre-Yves Baudouin, l'incroyable Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, ma collègue Isabella Vanni. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, bénévole à l'April, ainsi qu'Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toute remarque et question bienvenue.
Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 2 novembre 2021 à 15h30. Nous travaillons encore sur le sujet principal. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le 2 novembre et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fr.